RCFM, Sabienza, Jean-Michel Fradigelli, Fabrice Fenouillère.
Et comme chaque samedi matin, nous sommes là, et le mardi soir aussi, en rediffusion, et quand vous voulez, sur Bleu RCFM. Fabrice Fenouillère, bonjour.
Bonjour Jean-Michel.
Un thème qui nous glace le sang aujourd'hui.
Je sais pas, est-ce qu'on va vraiment avoir peur de manger après avoir écouté cette émission? Eh bien, on va le comprendre ensemble. On va être avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, Frédéric Danhé. Alors, on connaît sa voix, hein, pour ceux qui sont habitués de France Inter. Il a longtemps été chroniqueur attitré de CO de Mon Amour. On le retrouve aujourd'hui sur France 5 dans le magazine de la santé une fois par mois. Ingénieur écologue, journaliste de formation, auteur de très nombreux ouvrages relatifs à la question environnementale dont c'est un expert. Alors, on pense par exemple à doit-on avoir peur de, enfin, plutôt le bio au risque de se perdre. Doit-on avoir peur de manger? C'est l'émission. Un de ses derniers ouvrages. Et puis la cause végane, un nouvel intégrisme qu'il sort en ce moment. Ça devrait faire du bruit.
Ça fait du bruit. Déjà, la question peut faire du bruit. Moi, je pensais que la peur de manger, c'était pour éviter le cholestérol.
Ah, pas du tout. On va voir avec lui si c'est du bon ou du mauvais.
Bonjour Frédéric Danhé.
Bonjour, bonjour à tous.
Salut Frédéric.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bon. Alors, il faut avoir peur de quoi, en fait? Que l'assiette explose?
Non, il faut avoir peur du cholestérol, mais ça, on peut revenir là-dessus. C'était un peu une peur construite. Mais il faut avoir peur de manger des choses qui ne sont pas saines, qui ne nous représentent pas. Manger des choses dont on a honte, on en est là aujourd'hui. On est un peu ce que l'on mange, hein, psychologiquement, et on a l'impression que tout ce qu'on mange aujourd'hui nous porte atteinte à la planète, à notre éthique, à notre morale. Enfin bref, oui, c'est ça, on est un peu honteux de manger. Et c'est compliqué de faire autrement aujourd'hui, malheureusement.
Mais cette honte vient de quoi et vient de qui?
Cette honte vient du fait qu'on se rend compte aujourd'hui à quel point ce que l'on mange nous fait du mal, à quel point ça peut faire du mal à la planète, et puis ça nous fait honte à nous-mêmes, on est honteux de ce que nous avons laissé faire, c'est-à-dire pendant plus de 40 ans, on a laissé le soin à l'industrie agroalimentaire, à la grande distribution et à une forme particulière d'agriculture de nous nourrir. On a délégué, on n'a pas voulu voir ce qui était fabriqué et ce que nous mangeons, et aujourd'hui on s'en rend compte, on se rend compte de... finalement de toute cette facture sanitaire, écologique et facture tout court que l'on a payée. Et bref, on a un peu honte d'avoir laissé faire. Et c'est un peu un reproche qu'on se fait à nous-mêmes finalement. Et voilà, là, le temps est venu de se poser les bonnes questions.
Et du coup, est-ce que pour se rassurer, vous avez écrit, on l'a dit, le bio risque de se perdre dernièrement, il faut se réfugier dans ce bio?
Non, faut jamais passer d'une église à l'autre. Faut jamais tomber dans le manichéisme. Aller vers le bio, c'est aller déjà vers une introspection, c'est-à-dire je m'interroge sur mon mode de vie, pourquoi ce que je mange ne me plaît pas, pourquoi ma façon de manger ne me plaît pas. Et une fois qu'on a compris ce qui n'allait pas, ou une fois qu'on a compris que finalement tout allait très bien, bah là on peut envisager de faire autre chose. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce qu'on va se mettre à manger des chips bio qu'on va aller mieux et que la planète va aller mieux. Voilà, aller vers le bio, ça ne peut être qu'une démarche quasi philosophique, une démarche d'interrogation sur son mode de vie, mais entre le conventionnel tout simple et la bio en termes philosophiques, il y a plein d'autres façons de trouver son chemin pour aller un peu mieux, pour être en tout cas plus en accord avec soi-même.
Mais alors, philosophiquement, manger pour se faire plaisir, ça n'existe plus, c'est une notion qui a disparu.
Ben pratiquement. Alors en France, en Corse, on est quand même des pays où on bouffe, on se fait bouffer, des pays essentiellement agricoles, et on a perdu cette notion-là. Vous savez, quand je disais tout à l'heure, on a abandonné aux autres le soin de nous faire à manger pendant 40 ans, on a abandonné aussi à la médecine le soin de nous dire ce qui était bon. Et donc la médecine, finalement, mais parce qu'on voulait entendre ce qu'elle nous disait, la médecine a réduit la nourriture à des lipides, des protéines et des glucides et à des risques. Quand on parle d'aliments aujourd'hui, c'est toujours attention. Et où est la notion de plaisir? Donc en fait, on est tétanisé à l'idée de manger, on pense qu'on va faire mal. Voilà. Et puis si on fait mal, on se charge bien de nous le dire dans les médias, nous autres journalistes, et si on fait mal, on a un peu honte d'avoir fait mal à notre propre corps. Et donc il faut d'abord retrouver la notion de plaisir, vous avez raison. S'il n'y a pas de notion de plaisir à manger, comment voulez-vous qu'ensuite on puisse manger correctement? On peut pas aller toute une vie à manger en suivant des oukases qui viennent de, je sais pas, des véganes, qui viennent des sans lactose ou de la médecine. Non, faut d'abord retrouver le plaisir de manger, et dans le plaisir de manger, il y a le plaisir de manger ensemble. La bouffe, c'est d'abord, surtout un lien social.
La convivialité, oui, effectivement.
La convivialité, bien sûr.
Donc en fait, vous faites aujourd'hui la notion entre se nourrir et manger.
Ah bah oui. Moi j'aime bien le terme bouffer, celui de Jean-Pierre Coff. Voilà, il y a une notion de bonbons, de plaisir, de jouissance à manger.
Oui, de générosité.
Et du fait que quand on mange, voilà, Bon, on entretient des artisans, on entretient des paysans, on entretient des paysages. Se nourrir, c'est une chose, manger, c'en est une autre, et bouffer, je pense que c'est là l'essentiel.
Bon, ça c'est bien de nous entendre parler comme ça, ça nous va bien, mais Jean-Michel...
tout à fait, oui.
Il y a quelque chose d'important, Frédéric, c'est que vous parlez, vous l'avez prononcé, hein, de la bio, c'est pas une faute de prononciation, c'est bien la bio, parce que derrière, il y a cette philosophie dont vous avez à peine esquissé les traits, et oui, parce que parfois ça peut être bio, mais derrière, des paysans extrêmement mal payés, voire des gens non déclarés en Espagne, dormant dans des endroits insalubres.
Mais il n'y a pas que le bio, hein. Vous savez, dans l'agriculture en général, il y a plein de gens qui sont sous-payés. Là, on a vu ici en métropole des agriculteurs, des viticulteurs, du sud-ouest qui ont été pris la main dans le pot de confiture en train de maltraiter des ouvriers agricoles. Mais le bio en soi, c'est un cahier des charges. Ce cahier des charges, c'est la version réduite, compressée, le plus petit dénominateur commun accepté par tous les pays de l'Union européenne. Donc c'est cette version réduite d'une philosophie. Cette philosophie de la bio, je vous le fais très court, c'est respecter toute la chaîne alimentaire qui va du producteur au consommateur en passant par les écosystèmes, pour faire très court. Et ce respect passe par un juste prix payé aux paysans, aux producteurs, c'est-à-dire le prix au moins égal à son coût de production. Le bio a été réduit finalement à des recommandations en matière de conduite de culture, mais sans indicateurs quantitatifs permettant de mesurer l'atteinte de ces objectifs. Et puis finalement, techniquement, ça a été réduit à l'interdiction d'utiliser des pesticides et des engrais de synthèse. Et donc, réduit à ça, le label AB, même s'il est sérieux, même si globalement la philosophie de la bio, qui est beaucoup plus complexe et qui va beaucoup plus loin, elle est respectée dans des pays comme la France, dans des pays effectivement comme l'Espagne, comme le sud de l'Italie, comme la Chine, comme les pays de l'Est, on n'a que le cahier des charges, c'est-à-dire qu'on n'a pas de pesticides, mais on a des gens mal payés, on a des terres qui sont trop labourées, on a des parcelles sans un seul arbre, c'est-à-dire sans aucune biodiversité. Voilà, mais il n'y a qu'un seul label, on est bien obligé de lui faire confiance, surtout si on achète des produits en gros fabriqués en France, en Allemagne, allez, dans le nord de l'Italie. Là, on est à peu près assuré que la philosophie correspond, que le cahier des charges globalement correspond à la philosophie.
Mais beaucoup de personnes pensent que quand on mange bio, on mange quelque chose qui est bon, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Il vaut mieux manger une tomate qui n'est pas bio, mais une vraie tomate de jardin, qu'une tomate qui pousse sur serre, qui n'a jamais vu la terre, et qui est certifiée bio.
Ah ben ça, vous avez raison, Jean-Michel, mais en fait, le problème du bio, c'est comme c'est un totem, on plaque dessus tous nos fantasmes. Donc tout ce qu'on déteste dans l'agriculture dite conventionnelle, on veut le voir, on veut absolument le voir et on pense le voir dans le bio. Donc la tomate, parce qu'elle est bio, elle ne va pas m'abîmer parce qu'elle aura pas de pesticides, et forcément elle est bonne parce que puisqu'elle a pas de pesticides, elle est naturelle.
Bon, le goût dans tout ça.
Eh ben le goût, il est. Alors le goût, il y a
on
deux choses.
Fout.
Non, le goût, du coup, on s'en fout, parce que ce qui compte, c'est de ne pas avoir de pesticides, c'est d'acheter un produit qui correspond à un fantasme. Le goût, premièrement, c'est très personnel, voilà, et puis deuxièmement, le goût est d'autant plus prononcé dans un fruit et dans un légume que le fruit et le légume ont été cueillis à maturité, voilà, juste à maturité. C'est là où le plus grand nombre de molécules liées à la saveur s'accumulent juste sous la peau. Mais un produit qui a été cueilli à maturité doit être vendu le lendemain ou le surlendemain, pas plus. Si entre-temps il a été réfrigéré pour être transporté, ces molécules de goût ont été cassées. Donc vous avez raison, mieux vaut acheter un produit conventionnel qui a été cueilli la veille et distribué sur le marché le lendemain, plutôt qu'un produit bio qui a fait 500 bornes, qui a été cultivé sous serre, et qui, parce qu'il a été transporté, parce qu'il devait affronter la réfrigération, était cueilli avant la maturité. Et ce produit-là, même bio, il n'a aucun intérêt.
Oui, d'où l'intérêt aussi de vous écouter quand vous dites, et quand on vous pose la question, que pour plutôt bien manger, manger sain, il faut manger de saison et privilégier les circuits courts, aller chercher ce qui se passe à côté de chez nous, vraiment.
Eh bien oui, puis ça correspond bien à la philosophie de la bio, au sens où le paysan doit d'abord être... C'est le premier maillon qui doit bien être payé, bien être traité, si vous voulez. Et donc c'est forcément du circuit court. Si vous avez 3-4 intermédiaires entre lui et vous, le prix qu'il aura dans sa poche ne sera pas le bon prix.
Et là vous dites que les supermarchés les pressent, hein, ces paysans. Vous avez, non pas une cavale, hein, parce que vous trouvez aussi leur utilité. Ils ont notamment démocratisé ces produits bio, hein, les supermarchés. Mais aussi peut-être pressé ces paysans que vous défendez pour les avoir beaucoup suivis et avoir enquêté dans leur domaine.
Oui, mais de toute façon, le modèle économique de la grande distribution, il est fondé sur des marges faibles et sur des achats en volume, et des achats en volume auprès d'agriculteurs qui ne peuvent plus discuter les prix. On le sait, hein, il y a 420 000 agriculteurs en France et en Corse, en tout 420 000 exploitations agricoles, il y a 4 centrales d'achat. C'est tout. Comment voulez-vous que ces 420 000 puissent négocier avec 4 centrales d'achat qui détiennent 80% de la distribution du marché des fruits et légumes frais en France et plus de 50% du marché du bio? Alors il est vrai, vous l'avez dit, Fabrice, que sans la grande distribution, le bio ne se serait jamais démocratisé. La croissance à deux chiffres du bio depuis 10 ans, elle est liée au fait que la grande distribution a distribué le bio, tout simplement. Donc ça, tant mieux.
Mais vous parliez de circuits courts, mais c'est beaucoup plus facile dans les zones rurales qu'en ville, par exemple.
Ah ben évidemment, dans la plupart des villes, partout dans le monde occidental, dans la plupart des villes, il y a plein d'endroits où on ne peut plus faire autrement qu'aller dans les supermarchés, dans les hypermarchés. Malheureusement, parce que les supermarchés installés en périphérie ont vidé les centres-villes de leur commerce, tout simplement. Mais ce modèle est en train de changer, parce que sinon la grande distribution se mettrait pas à distribuer du bio. Le modèle économique de la grande distribution se casse la figure, à tel point que la grande distribution est en train de remettre des magasins dans les centres-villes qu'elle avait contribué à désertifier. Donc ce modèle est en train de changer, on revient vers des magasins à taille humaine, mais c'est pas pour autant que le mode de fonctionnement de la grande distribution va changer. On voit déjà, fin 2019, la grande distribution négocier les prix avec les producteurs bio, prix qu'elle ne négociait pas avant parce qu'elle avait besoin d'eux, mais maintenant que la demande explose et que l'offre n'est pas suffisante en France, la grande distribution joue sur les volumes avec l'importation, pour jouer sur les prix avec les producteurs français.
C'est bien, oui, c'est bien beau tout ça, Frédéric, mais le pouvoir d'achat dans tout ça, on entend souvent dire que ça coûte cher quand même de bien manger, d'aller faire son marché. Oui. Est-ce que c'est plus cher ou moins cher qu'ailleurs? Ça se discute, mais le bien manger, selon vous, est réservé, entre guillemets, à une élite, en tout cas, met de côté ceux qui ont le moins de moyens ou pas?
Ah oui et non, en ville, oui. Ça, c'est une certitude. Être pauvre en ville, en France, aujourd'hui, en 2019, c'est vous condamner à mal manger parce que les produits... Alors moi, j'habite à côté de Paris, évidemment, c'est l'exemple ultime, mais de façon générale, hein, toutes les études montrent que être pauvre en ville, c'est condamner à mal manger parce que les produits frais sont plus chers, parce que les produits frais de qualité sont encore plus chers. À la campagne, c'est différent. On peut avoir accès à un potager, on peut avoir accès au troc, à l'échange avec des voisins qui ont des potagers, mais globalement, bien manger coûte plus cher. Et puis, bien manger, comment dirais-je, il y a une forme de... Ces 40 ans d'abandon de confection de nos produits alimentaires à l'industrie nous ont fait croire que il fallait manger des produits transformés et nous ont un peu déculturés en matière alimentaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient faire à manger parce qu'ils en ont le temps, parce qu'ils ont accès, mine de rien, dans leur jardin ou au jardin du voisin à des produits frais. Ils pourraient faire à manger eux-mêmes, mais en fait, ça leur vient même pas à l'esprit parce qu'ils en ont perdu l'idée. Parce que c'est comme ça, on est une société de service et faire à manger, c'est plus une fonction essentielle des parents pour leurs enfants, par exemple. Et ça, c'est dans tous les milieux sociaux. Et ça, c'est un drame. Donc, il faut remettre des cours de cuisine à l'école et puis aider les gens les plus pauvres à manger correctement, comme ce que font les Américains. Hein, l'essentiel des subventions agricoles délivrées par le gouvernement fédéral américain, c'est 80 milliards de dollars par an. Ben, 60 milliards de ces 80 milliards, ce sont des chèques alimentaires qui sont distribués aux personnes les plus pauvres, et aux États-Unis, il y en a 30 millions, et chèques alimentaires qui sont ciblés sur des produits frais et des produits de plus en plus issus de l'agroécologie. Je pense que c'est vers ça qu'il faudra aller, parce que sinon, le fossé va se creuser de plus en plus entre les gens qui auront accès à des produits de qualité et des gens qui ne pourront plus y avoir accès.
Frédéric Nahé, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour poursuivre cet entretien et pour se faire encore plus peur.
RCFM, Sabienza, Fabrice Fenouillère, Jean-Michel Fradigelli.
Giulerà, torna seguli quanto da chi è l'urriveghi scritto suo nome nanto e pagine di quale libro, intanto si affido e lutta e canta. E luganti l'amore avere, che luganti è lui che mai ci crede, che luganti ha fa tutte le solidarità, da surgente voce che luganti a saffa tutte so libertà burgor su frombubaru li stesse ston da mare a burta ghissiglione e qui l'altra con sabre li nega duelo e ingabbiano di più ma fermi pur ubiero e poi canta di nu. E luganti l'amore avere, che luganti è lui che mai ci crede, che luganti ha fa tutte le solidarità, su. E luganti fiadassi a voce, e luganti così da surgente a voce, che luganti ha fa tutte le solidarità,
che luganti l'amore avere, che luganti ghiello più che mai ci crede, che luganti a saffa tutte soli verità, un po' fulgoso, che luganti affiadassi a voce, che luganti così da sorgente a voce, che luganti a saffa tutte soli verità, un po' fulgoso.
Fenie canta o bobulo gorso, che luganti o bobulo gorso.
Sabienza, Jean-Michel Fradigelli, Fabrice Fenouillère.
Et notre invité qui nous fait frémir, Frédéric Danhé. Frédéric Danhé, vous êtes toujours là, évidemment. Oui. Alors, de quoi faut-il avoir peur quand on regarde dans son assiette ?
Il faut avoir peur des produits qui nous semblent bizarres. Il faut avoir peur de la monoculture, à la fois la monoculture dans les champs, la monoculture dans l'assiette. Je m'explique. Ce qui compte, mais je ne vais faire qu'enfoncer une porte ouverte. Ce qui compte, c'est la diversité de ce que l'on mange. C'est mélanger un peu tout. Et puis c'est.
Là, vous parlez comme un médecin. Hein.
Mais ouais, oui, c'est vrai. Mais en même temps, les médecins, même s'ils ont réduit l'alimentation, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ils connaissent un peu leur sujet. Et c'est toujours pareil. L'excès, il faut se méfier de l'excès. Manger que de la viande, ou manger que des légumes, ou manger que du sans lactose, ou manger que des plats préparés. Forcément, on prive le corps de quelque chose. Donc une diversité, une diversité. Et puis il faut se méfier.
C'est un coup de griffe au végan, ça.
Pardon ?
C'est un coup de griffe au végan, ça.
Ah oui, ça c'est sûr et certain. Oui, mais les végans, ils n'ont pas compris grand-chose en fait à ce qu'est l'alimentation. Mais comme tous les gens qui sont sur des postures moralistes et sur l'excès, encore une fois. Mais c'est comme les docteurs qui nous disaient il y a quelques années, mais non, il faut faire un régime tout protéines, il faut faire un régime tout crudité. Ça n'a pas de sens d'un point de vue philosophique. Mais j'insiste sur une chose, il faut se méfier avant tout des produits ultra transformés. C'est-à-dire des produits fabriqués, des produits qui ne sont pas frais, fabriqués par l'industrie. Il faut bien regarder la composition. Dès qu'on a plus de 7 lignes, il faut se méfier. Dès qu'on a des produits qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu dans l'armoire, chez la grand-mère ou chez la mère, il faut s'en méfier. Dès qu'on a des produits dont le nom ne nous inspire rien et qui semblent mystérieux avec des E partout, il faut s'en méfier. Un produit doit correspondre au maximum à ce qu'on pense qu'il est. Et souvent, on ne se trompe pas. En fait, il faut se faire confiance et on est capable de choisir nos propres produits. Donc, se méfier des produits qu'on ne connaît pas et se méfier de la monoculture dans l'assiette. Voilà, faut un peu de diversité, et puis il faut faire un peu d'excès de temps en temps, parce que sinon, ça fait pas plaisir en mangeant.
Vous en avez fait. Et en famille, en plus, parce que ça doit être convivial.
Le côté social.
Et oui, mais ça, tout le monde le sait, enfin, les anthropologues l'ont montré, mais ça paraît tellement évident. On mange d'autant plus mal qu'on est seul. Voilà, ouais. parce que quand on est en groupe, il y a le plaisir de manger, parce qu'on affiche aussi quelque chose, mine de rien, et quand on est tout seul devant sa télé, ben, on n'a pas tendance à se faire à manger soi-même et à manger correctement. Encore une fois, on mange ce que l'on est, et ce que l'on met dans son assiette est un peu le reflet de ce que l'on est. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler quand on a des désordres alimentaires, l'anorexie, la boulimie, ou des addictions à certains aliments. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est un vrai souci, et en même temps c'est passionnant l'alimentation.
Il n'y a pas longtemps, on a eu la chance de vous avoir à nos côtés là en Corse, hein, et je sais que vous régalez de fromage, vous régalez de saucisson, vous savez faire aussi, hein, la bonne bouffe et la partager quand il faut. Vous nous avez parlé de minéraux, je crois, hein, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire à un moment donné dans les produits transformés, à la base, c'est même plus de la viande, c'est même plus un peu de poisson.
Ah, de minerais.
Ouais. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Ça m'a fait peur quand je vous ai entendu sur
ça. Vous savez, c'est assez facile à comprendre. Quand c'était le scandale des lasagnes au cheval, là, qui avait montré ça aux consommateurs qui n'étaient pas au courant. Alors, nous autres journalistes, on l'était un peu plus. Mais quand vous avez un plat préparé de lasagne qui est vendu, un plat pour 4, à 1€, 1,50€, quand vous connaissez le prix un peu de la matière première, vous pouvez avoir un doute sur la qualité de la viande. Et en fait, il s'avère que pour avoir de la viande permettant de faire des lasagnes à ce prix-là, bah, c'est plus de la viande, c'est de la raclure d'os, c'est des ligaments, tout ça aggloméré, mélangé avec de l'amidon de maïs, mélangé avec du sucre, mélangé avec du soja, parce que le soja donne un goût avec le glutamate qui ressemble un peu au goût du sang, au goût de la viande. Tout ça aggloméré, tout ça congelé, et ça donne de la fausse viande, ce qu'on appelle du minerai. Voilà.
Donc c'est de la viande en plastique, quoi, presque.
Non, mais c'est ça. Si vous voulez, la viande, comme l'huile d'olive, comme le miel, comme le blé, comme le pétrole, c'est ce qu'on appelle des commodities. C'est-à-dire que c'est des produits de base qui perdent toute notion d'origine et qui ne comptent que pour les échanges dont ils font l'objet. Voilà. Donc, que ce soit du pétrole, du miel ou de la bidoche, enfin de la vraie fausse bidoche, c'est du minerai, c'est de la matière première qui s'échange dans le monde entier, et en l'occurrence pour l'histoire des lasagnes Findus, ils ont été échangés par 8 intermédiaires avant d'arriver chez Findus.
Voilà. Là, vous avez cité, là justement, dans ces échanges avec un poids, un prix, un marché, hein, et ça se négocie comme ça, et avec, on l'a bien compris, des eaux raclées, etc., pour de l'industriel surgelé. Vous avez parlé du miel, et là il y a un scandale.
Mais ça m'a inquiété aussi, parce qu'on a l'impression que c'est le produit le plus naturel du monde.
Il a bossé dessus, je crois, en enquête, là vous êtes en plein dessus, il se passe un truc pas très net autour de ça, au niveau mondial.
C'est le prochain scandale sanitaire. Tout le monde est au courant, et je suis surpris du fait que ça n'ait pas encore explosé, parce que le miel, il y a une demande mondiale énorme, justement parce que c'est un produit naturel, parce que c'est un produit de qualité, etc. Et sauf que pour répondre à la demande, bah, il faudrait plus d'abeilles, plus de fleurs qu'il y en a. Comme vous le savez, les abeilles ont du mal à butiner parce qu'il y a de moins en moins de fleurs à cause d'une certaine forme d'agriculture, à cause des pesticides également. Le plus gros producteur mondial de miel, c'est, compte tenu de la surface du pays, c'est la Chine. Mais la Chine a du mal à fournir. Et puis surtout, elle a du mal à fournir avec la grande distribution qui lui réclame du miel pas cher. Et pour faire du miel pas cher, bah c'est pas compliqué. On prend du miel et puis on le dilue avec du sucre, avec des sirops de glucose et de fructose qui sont issus du maïs. Ça forme des miels qui ont perdu toutes les vertus que l'on accorde au miel. Hein, les miels, c'est quoi? C'est des assemblages complexes de sucre, différents de sucre, hein, au pluriel, avec plein de vitamines, plein d'oligo-éléments. Dans ces miels pas chers, dilués, on dit adultérés avec des sirops de sucre, on n'a plus que du sucre. Enfin voilà, vous mangeriez du sucre dilué dans l'eau, ce serait la même chose.
Puis tout le monde sait qu'en Chine, les abeilles sont sous-payées.
En plus, les abeilles sont sous-payées, maltraitées. Non mais après, il y a une question de logique. Si vous voulez, un pot de miel de 500 grammes vendu 2-3€ comme on a en grande distribution, c'est pas possible.
Et puis c'est souvent le miel compresse, hein, je crois, qui est hyper liquide.
Ouais, qui est hyper liquide et qui est pas bon. En fait, il faut spécifier des miels avec la mention issu de Union européenne et hors Union européenne. Un miel, on doit au moins connaître sa provenance, sinon. Sinon, c'est plus du miel.
Bon, Frédéric, il nous reste 3 minutes à peu près. Ouais. En fait, la dernière question, c'est est-ce qu'on est foutu?
Non.
Est-ce que c'est irréversible? Est-ce qu'on va finir par manger des petites pilules à la place de nos repas?
Ah non, mais ça, par contre, c'est ce qui se prépare pour les, c'est ce qui se prépare pour les véganes, hein, mais on n'est pas aux petites pilules, mais on n'en est pas loin. Mais vraiment, je n'exagère pas, mais je vais pas m'étendre là-dessus. Non, ça va mieux. Les choses vont beaucoup mieux parce que les gens se rendent compte, parce que la société se rend compte qu'elle est allée trop loin, et on voit le renouveau des circuits courts, on voit la fin sans doute du modèle de la grande distribution, on voit le retour quand même de petits magasins dans les centres-villes, on voit des agriculteurs qui sont de plus en plus à passer au bio ou à ce qu'on appelle l'agroécologie, on voit pour le coup le bénéfice qu'on a eu avec les vidéos d'L214, c'est-à-dire qu'on s'est interrogé à nouveau sur ce que devrait être l'élevage. Non, on va quand même vraiment dans le bon sens, on va vers une amélioration. Le problème, c'est les prix qui vont augmenter le temps que tout cela s'adapte. Et bah, faudra bien une aide de l'État, faudra bien une aide de chacun de nous pour que les plus pauvres puissent bénéficier de cette nourriture dont la qualité, je pense, écologique et gustative, va augmenter. Non, soyez rassurés, on va vers le mieux. Moi, je le vois.
Et s'habituer aux insectes, comme on nous l'a parfois suggéré.
Pourquoi pas.
Je sais que c'est très bon.
C'est pas si mauvais. Hein.
Je sais que c'est très bon. Tout ça est une question de point de vue, effectivement. Ailleurs, c'est tout à fait normal. Mais c'est vrai que les pilules et les insectes, on a toujours dit qu'on finirait par ça, là, dans l'air qui est la nôtre. Hein.
Normalement, d'après une étude qui avait été faite, qui avait été commandée par Samsung, ça devrait arriver en 2060.
Pile.
À mon avis, ça va arriver plus tôt. Il y a d'énormes investissements sur ce qu'on appelle les substituts de viande. Moi, ça me fait un peu peur, parce que j'ai pas envie que l'élevage s'arrête. Mais oui, ça pourrait arriver plus vite que ce qu'on imagine.
Et donc, on perdrait en fait toute sensation gustative.
On perdrait toute sensation gustative. On perdrait l'essentiel de nos paysages qui n'existent que par l'élevage. On perdrait le lien psychologique établi depuis 12 000 ans avec les animaux domestiques. Enfin, on perdrait une grosse part de ce qui fait l'humanité. Et ça m'inquiète beaucoup. Mais bon, j'ai pas envie de vivre dans ce monde-là, franchement.
Merci à vous, en tout cas, Frédéric Danhé. Merci, Fabrice.
Merci beaucoup, Frédéric, d'avoir été avec nous.
Et cet éclairage. On va essayer de passer à table d'une façon conviviale en mangeant des bons produits.
Voilà, à ma santé.
Bon appétit. Au revoir.
Au revoir. À la vôtre.
Fabrice, on se retrouve la semaine prochaine.
Oui, avec grand plaisir. On va encore travailler cette semaine pour voir quelle thématique on propose à nos auditeurs. Peut-être qu'on partira en terre aborigène du côté de l'Australie pour essayer de comprendre leurs rêves, leurs espoirs et leurs colères.
Ah, je croyais que vous alliez nous faire manger du kangourou.
Allez savoir.
À la semaine prochaine.
Allez, à bientôt.